Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche que j'ai intitulée aujourd'hui « Hier, en Basse Marche, on récupérait, on recyclait tout ». Ce sera notre 212e émission et notre 153e chronique. Pour les textes, j'ai fait appel aux ouvrages et aux auteurs suivants. Bergère, Éternelle Bergère et Bramefond-sur-Couze de Louis Peignot. Un parfum de récré de Jean Leure. Fanchette de Florence Deguy. La société rurale traditionnelle en Limousin et Basse Marche d'Alfred Gourceau. La vie quotidienne en Limousin au 19e siècle de Georges-Emmanuel Cloncier, les bulletins de la Société ethnographique du Limousin et de la Marche, des articles de Maurice Pichon et de Maurice Robert, et le magazine Vie et Métiers consacré à la récupération et au recyclage.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Une montagne à deux côtés, pour descendre et pour monter, dans sa terre pourra germer la richesse, la pauvreté. D'un côté, des gens achètent, qui profitent et puis qui jettent. De l'autre, il y a ceux qui guettent tous les restes de la fête.
Le terme de recyclage n'apparaît pas en France avant 1974. Auparavant, on utilisait les mots de réutilisation ou de récupération. Dans le passé, dans nos campagnes de Basse Marche, on ne produisait pratiquement pas de déchets. En tout cas, tout était réutilisé. Il n'en va pas tout à fait de même dans les villes, y compris dans nos petits bourgs. Au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, bien avant l'invasion de notre fameuse économie circulaire, on récupère et on réutilise pratiquement tout. Par exemple, les chiffons que ramassent les chiffonniers, chiffons que l'on utilisera dans les papeteries ou les usines d'effilochage pour la production de fils de laine, les papiers, les cartons, les bouteilles, les verres cassés, les os pour produire de la gélatine, des engrais, des supports divers pour remplacer la corne, la graisse avec laquelle on produit les chandelles, les peaux de lapin pour confectionner des couvertures de lit, pour fabriquer de la colle à bois et surtout du feutre pour les chapeaux. Les croûtes de pain que l'on utilise pour nourrir les volailles, les lapins, les porcs, les chevaux ou pour fabriquer de la chapelure ou du pain recuit, d'où l'expression « gagner sa croûte ». Les bouchons que l'on retaille et dont les rognures servent à faire des combustibles, les boîtes de sardines dont on récupère les soudures de plomb et d'étain, les cheveux féminins pour la fabrication des perruques, les cheveux de poupée, les bouts de cigares, les mégots, les éponges, les morceaux de caoutchouc, le métaux, le bois, le thon que l'on utilisait dans les tanneries, en particulier à Bellac, pour produire des combustibles, etc., etc. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au commerce des chiffons, des peaux de lapin, du thon de nos tanneries et des cheveux.
Petit chiffonnier, qu'as-tu dans ton sac?
Petit chiffonnier, qu'as-tu dans ton sac?
Quelques vieilles chaussures en frac, une veste sans bouton.
Quelques vieilles chaussures en frac, une veste sans bouton.
Petit chiffonnier, qu'as-tu dans les bras?
Petit chiffonnier, qu'as-tu dans les bras?
Des cartons pour ma cabane, quelques sacs pour faire un toit.
Des cartons pour ma cabane.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Il est une corporation d'ambulants qui, au début du siècle dernier, constitue un véritable corps de métier. Ce sont les payaros, les mendiants, les chiffonniers qui hantent en permanence les campagnes de Basse Marche. Nous empruntons les textes à Louis Peignot dans Bergère, Éternelle Bergère et Bramefond-sur-Couze. Seul passait encore le payaro à la recherche de chiffons et des peaux de lapin et le dernier vieux mendiant de la contrée. Celui-ci avait son rythme saisonnier. L'hiver le ramenait en quête des grandes écuelles de soupe fumante et des tranches de pain bitaillées dans le chanteau. Françoise les lui graissait d'un morceau de salé et le bonhomme s'installait au coin de la cheminée, son bâton de houx entre les jambes. Il ne partait pas tant que la maîtresse de maison n'était pas descendue quérir à la cave un pichet de cidre dont il était gourmand. elle le supportait mal auprès de la marmite et de la poêle, tellement il répandait une odeur nauséabonde. Après s'être restauré, il demandait invariablement quelques vieilles nippes, tout heureux quand il héritait d'un vieux paletot qu'il endossait aussitôt par-dessus les 3 ou 4 autres qui le couvraient de leurs lambeaux. Les puces avaient moucheté son cou ridé et tanné. Il était si peu agréable à approcher que les hommes, moins compatissants que les femmes, ne le supportaient pas auprès de la table à l'heure des repas. Il l'envoyait coucher dans le foin. Le lendemain, pourvu d'un quignon de pain, il repartait vers d'autres hameaux. Un hiver, on ne le revit pas. La mort l'avait pris dans la neige au revers d'un fossé. Bien sûr, les chiffonniers de nos petites villes ramassaient tout, tout ce qui pouvait resservir. Mais par leur titre même, ils récoltèrent beaucoup de chiffons, de fripes. Alors, que faisait-on de ces fripes, de ces chiffons ? Les vêtements réutilisables étaient nettoyés et revendus dans les friperies par les fripiers. Les chiffons, particulièrement de fil de coton, servirent massivement à la fabrication du papier et du carton. Avec le développement de l'imprimerie, des livres et des journaux, surtout à compter du XVIIIe siècle, les besoins devinrent importants. Avec 1,5 kg de chiffons, on pouvait fabriquer 1 kg de papier de qualité. Ce sont donc les papeteries qui devinrent grandes consommatrices de chiffons. Dans notre zone, 2 papeteries fonctionnant dans la commune de Baldan, au moulin de Lacouze et au moulin de Laprade, employaient encore 22 ouvriers en 1811. Après avoir trié et délissé les tissus, c'est-à-dire séparés suivant leur qualité et débarrassés des boutons, des crochets, des agrafes, ils étaient battus et réduits en pâte pour fabriquer le papier. Quant aux chiffons de laine, ils furent surtout utilisés au XIXe siècle avec l'invention des machines à effilocher. Il existait une usine d'effilochage de tissus à Château-Ponsac, au moulin de Chailloux, et cela jusqu'en 1917.
Le chiffonnier dans mon pays fait le plus joli des métiers. Il ramasse les vieux habits et s'en va les revendre au marché. Il balade dans son grand sac un peu de velours, un peu de soie, des dentelles et un almanach, un cahier de chansons, un hautbois.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons maintenant nous intéresser au commerce des peaux de lapin. Dans un ouvrage plus récent, Un parfum de récré, Jean Leur, le romancier de Bellac, nous parle ainsi du chiffonnier qui sillonne les rues de la petite ville. La ville ne produit pas beaucoup de déchets. On récupère presque tout, à l'exemple du chiffonnier qui passe dans les rues en poussant son long cri familier. « Peau de lapin, peau, peau !» Il est bien rare que dans le mois écoulé, nous n'ayons pas mangé un ou plusieurs lapins dont les fourrures retournées, bourrées de papier journal, sèches, pendues à une poutre du cellier. Le marchand glisse dans son sac de toile de jute les peaux raides que je lui apporte, me remet une pièce de 100 sous ou un billet de 10 francs selon la qualité de la marchandise. Jette son fardeau sur l'épaule et repart en poussant ses puissants et traînants appels qui, en s'éloignant, finissent par s'estomper peu à peu. « Peau de lapin, peau, peau, peau !» Que faire avec ces peaux de lapin ? Dès le XVIe siècle, on fabriquait des couvertures de lit en peau de lapin pour la noblesse et la bourgeoisie naissante. On s'en servait également pour fabriquer une colle particulièrement utilisée par les artisans du bois pour les entoilages ou les supports d'enduit. Notons qu'une usine de Château-Ponsac au Moulin du Loup, usine de la Société des Gélatines École Rousselot et compagnie, fabriqua une telle colle de 1914 à 1962. Mais l'expansion véritable de l'utilisation des peaux de lapin remonte à la démocratisation du chapeau de feutre. Ces chapeaux d'homme furent longtemps fabriqués en peau d'agneau ou en peau de castor, puis vers le XVIIIe siècle et surtout le XIXe, on utilisera du poil de lapin. On utilise un peu le poil de lapin dont l'étoffe est aussi solide que moelleuse dans les petites chapelleries locales à Bellac, Le Dorat, Château-Ponsac ou Magnac Laval. Mais notre région envoyait aussi ses peaux ou ses poils de lapin dans les grandes chapelleries. C'est ainsi qu'au musée du chapeau à Chazelles dans la Loire, on nous indique que les usines de la zone se fournissaient pour une part dans la région du Dorat. Comment faire pour obtenir ce feutre que l'on utilise pour fabriquer des chapeaux ? Le coupeur procédait d'abord à l'étendage. La peau était retournée, cuir au-dessus et poils en dedans. Après l'opération du fendage, on procédait à l'éjarrage qui consistait à enlever la jarre, c'est-à-dire la partie grossière des poils. Le secrétage suivait, il s'agissait de brosser la peau au moyen d'une brosse en chien-dent trempée dans de l'eau forte à laquelle on avait ajouté du mercure. Accrochée dans une étuve, la peau était chauffée. La peau passait ensuite dans la machine à couper. Les poils étaient alors coupés. La peau qui restait était coupée en fines lanières que l'on appelait vermicelle et c'est ce qui servait à faire la colle. Les poils qui venaient donc d'être coupés passaient dans une machine à souffler qui permettait de les purifier. Puis c'était l'arçonnage qui consistait à les compacter, à les enchevêtrer pour ensuite les transformer au moyen du bâtissage en un tissu en forme de cloche. Le tissu qui constituait cette cloche partait ensuite au foulage, puis il était placé sur une forme, puis séché et poli à la pierre ponce ou à la peau de chamois. C'est à partir de ce tissu que l'on fabriquait les chapeaux. Le tan provient de l'écorce de chêne, réduit en poudre dans les moulins à tan. Il servait à tanner le cuir dans nos tanneries. Qu'en faire ensuite ? La romancière de Bellac, Florence de Guy, nous explique cela dans son roman « Fanchette ». Le père de Jean, incapable à 70 ans d'un travail pénible et suivi, était vendeur de mottes. Le tan épuisé, sorti des cuves, était amoncelé en butte fauve. Certains patrons tanneurs payaient 8 sous le cent la confection des mottes et les faisaient vendre ensuite. D'autres abandonnaient le tan à des malheureux et le père de Jean profitait de cette largesse. Le vieux amassait avec des peines et des soins de fourmis une certaine quantité de tan et le laissait sécher. Il le tournait et le retournait, foin sans fleurs, sans parfum, sans vie. Il le mouillait ensuite à nouveau et le tassait dans des moules semblables à ceux d'où sortent les gros fromages ronds. S'appuyant à une barre entre deux chevalets, il sautait ensuite sur les moules et les piétinait avec ses sabots plats. Les mottes démoulées étaient mises au séchoir. Sèches, on les empilait dans des hottes et le vieux fournissait de mottes bien des ruelles du vieux Bellac. La motte coûtait peu, de 15 à 20 sous le cent. Et elle brûlait bien. Sur quelques braises vives, deux mottes, adroitement fractionnées, se consumaient lentement, longues à s'émietter en des brins ardents qui s'éteignaient à regret et dont la cendre rayonnait de longues heures. Aujourd'hui, un seul séchoir à mottes existe encore, tout près du pont. Sur 4 piliers ronds en pierre, il dresse un échafaudage léger de planches et de bâtons. Tout à claire-voie, il laisse siffler l'air et le vent autour des mottes fauves. Il ne sert plus qu'à abriter des laveuses. Elles s'y réfugient contre la neige, les averses et le vent coupant de la vallée. Le bruit de leur battoir semble un écho plus vibrant de l'ancienne chanson rythmique des sabots plats foulant le temps en des moules ronds. Donc, à cette époque, bien des gens brûlaient des mottes, et le vieux, de son pas traînant, faisait bien du chemin. Il débutait par Chapterie en Brette, faubourg arrondi en croissant au bord de l'eau, serré entre le rocher et la rivière, qui se partage pour étreindre une île d'acacias et de peupliers. Le vieux allait et venait, laissant bien des hottés chargés si lourdement que la bricole de cuir lui semblait parfois avancer dans sa poitrine.
Petite petites et grandes histoires de la basse marche.
La récupération des cheveux donnait lieu à un intense commerce caractéristique des pays pauvres et c'était une triste spécialité de notre zone. Nous empruntons d'abord ces premières informations à Albert Gourceau. Jadis, on pouvait voir dans toutes les foires et à l'occasion de toutes les frairies importantes un individu juché sur une grande charrette bâchée, portant au cou une grande paire de ciseaux et criant « Pio ! Pio ! Pio ! Cheveux, cheveux, cheveux !» C'était le marchand de cheveux. Il avait installé à côté de sa charrette un banc chargé de belles indiennes aux couleurs chaudes, de robes, de cotonnades, bref, de toutes sortes de vêtements et de parures pour les jeunes filles. Ces dernières, à peu près toutes de la campagne et pauvres pour la plupart, s'approchaient de la voiture, venaient palper des étoffes et, s'enhardissant, mesuraient sur elles une robe, essayant un fichu. Le marchand observait le manège. Puis, le moment venu, s'approchait pour amorcer cette longue discussion qui, comme un rite, précède toujours une vente. La jeune fille se décoiffait et l'acheteur en connaisseur appréciait la chevelure. Il la soupesait, considérait la finesse et la souplesse des cheveux, en admirait les reflets, etc., mais se gardait bien d'en vanter la beauté. De son côté, la jeune fille dépréciait les étoffes, la forme de la robe. Comme je viens de le dire, chacun prenait son temps. Enfin, on tombait d'accord. La jeune fille rentrait alors discrètement dans la voiture et à l'abri des regards, et là, d'un seul grand coup de ciseau, elle se laissait couper les cheveux comme une brebis que l'on tond. Selon une convention tacite, il était convenu de lui laisser quelques cheveux sur le devant de la tête, de manière qu'elle puisse les faire dépasser sous sa coiffure. Il n'était pas d'usage pour les femmes mariées de vendre leurs cheveux. Et Albert Gourceau d'ajouter, « Ce commerce était très prospère et pour ma part, j'ai connu de vieilles femmes qui, lorsqu'elles étaient jeunes, avaient vendu 3 fois leurs cheveux. » Dans son ouvrage « La vie quotidienne en Limousin au XIXe siècle », Georges-Emmanuel Cloncier confirme les informations d'Albert Gourceau. Sur le champ de foire où chaque paysan retrouve sa place habituelle, quel spectacle merveilleux pour le jeune Pierrot. « Pio ! Pio ! » crie le marchand de cheveux qui espère attirer près de sa tente les femmes et les jeunes filles aux longs cheveux. À celles qui, trop démunis, ne résistent pas à la tentation de monnayer leur chevelure, il offrira en échange quelques pièces d'étoffe ou une méchante bague qui ne suffiront pas à atténuer les reproches et les moqueries dont elles seront désormais victimes. Mais c'est à cette époque une des tristes spécialités du Limousin. Dans « Bergère, éternelle bergère », Louis Peignot fait une courte allusion à ce commerce des cheveux au moment où une paysanne, Françoise, ouvre la porte de son armoire. Tout au fond de l'armoire, à côté de son voile de mariée, elle toucha un paquet qui ploya, souple et doux, sous ses doigts, une lourde et longue tresse enrubannée de bleu, ses cheveux, qu'elle avait conservé après les avoir sacrifiés à la mode des villes. La ville, qui avait tant apporté de présents aux femmes de la terre, leur avait dérobé leur chevelure. À cet instant, Françoise eut l'impression que 2 yeux fixaient comme elle cette natte. Elle savait bien que des ombres étaient là dans la chambre autour d'elle, invisibles mais toujours présentes. Ses yeux étaient ceux de la jeune fille qui avait un jour, à la foire, vendu ses cheveux pour une robe de coton rose. Celle-là aussi, pour se faire plus belle, avait cédé à la tentation de la ville. D'autres yeux, voilés de tristesse, apparurent à Françoise. Ceux de l'aïeul qui avait dû vendre sa longue chevelure blonde pour acheter du pain une année de grande disette. Dans un article du bulletin de la Société ethnographique, Maurice Pichon nous communique la lettre d'une jeune paysanne de la région de Nantia, Jeanne Brouillot, qui écrit à un marchand chapelier de Bellegarde, M. Sémentry. Vous l'allez entendre, elle marchande le prix de vente de ses cheveux. Le destinataire est donc un commerçant chapelier de Bellegarde, Monsieur Sémantry, et la lettre est relative à ce commerce qui s'est prolongé jusqu'à l'abandon de la coiffe par les jeunes filles, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XIXe siècle. Voici cette lettre. Nantia, le 12 août 1842. Monsieur Sémantry, je vous envoie ces deux mots pour vous dire que j'ai apporté mes cheveux à Limoges et M. Morat et M. Vergne ensemble ont voulu me les acheter et ils ont été plus hardis que vous car les leurs ayant fait le même prix qu'à vous, ils m'ont offert du premier mot 9 francs et leur dernier mot a été de 9 francs et 50 centimes. Maintenant, si vous ne voulez pas vous rapporter à moi quand vous reviendrez à Limoges, demandez-le leur. À M. Vergne et à M. Moras, car je pense bien qu'ils vous diront la vérité. Et aujourd'hui, je viens vous écrire pourquoi. Parce que vous m'avez toujours dit que vous les feriez valoir 25 centimes par livre de plus que j'en trouverais. Et comme je pense que vous serez de parole. Maintenant, si les conditions que je vous fais vous conviennent, vous n'avez qu'à me faire réponse. Je vous dirai que j'ai été très fâché que vous vous soyez donné la peine de venir les voir sans que nous n'ayons pu nous accorder. Mais tous les marchés qui se commencent ne se terminent pas toujours. Recevez, monsieur, les marques de mon estime. J'ai l'honneur de vous saluer, signé Jeanne Brouillot. Si vous me faites réponse, dites le jour où je pourrai vous rencontrer à Limoges.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Avec le commerce des cheveux au début du XXe siècle, Limoges était devenue la capitale européenne du cheveu. Nous empruntons les informations à M. Ardouin Dumazet, à travers un extrait de son voyage en France, à M. Maurice Robert, dans un article de la Société ethnographique du Limousin et de la Marche, et encore à Michel Coissac, dans son ouvrage « Mon Limousin ». Les tondeurs, après s'être rendus possesseurs d'un certain nombre de chevelures dont les femmes ont consenti à se défaire en échange de quelques étoffes de peu de valeur, viennent, le jour de la Saint-Jean à Limoges, où se donnent rendez-vous de gros acheteurs de Paris. Les tondeurs sont avant tout marchands d'étoffes, c'est leur principale profession. Ils deviennent accidentellement, en été surtout, acheteurs de chevaux. Le bénéfice que leur procure ce négoce suffit bien souvent à les faire vivre. Mais ils s'approvisionnent de marchandises dans plusieurs magasins de la ville et ils profitent pour solder leurs créances dans ces maisons du bénéfice que leur procure la vente des cheveux. C'est également une occasion pour eux de faire de nouveaux achats. Le trafic des cheveux se fait dans les hôtels où les vendeurs vont trouver leurs acheteurs. Les tondeurs arrivent par petits groupes portant sur leurs épaules des malles et des sacs renfermant les dépouilles de plusieurs centaines de têtes. Pendant que les uns attendent dans les couloirs, les autres entrent en pourparlers avec l'acheteur qui examine les cheveux. De son œil exercé, celui-ci a jugé bien vite la valeur du lot. Les transactions se font au kilo. Et 1 kilo de cheveux se vend aujourd'hui, et là nous sommes en 1905, 50 francs en moyenne. Il se vendait 100 francs il y a 20 ans. Actuellement, on évalue à 60 000 francs le chiffre d'affaires à la foire de Limoges. Voici quelques précisions supplémentaires. Toutes ces chevelures coupées aux pauvresses pour orner le front des riches coquettes représentaient une masse capillaire considérable. À telle enseigne que chaque année à Limoges, pour la Saint-Jean, les 23, 24 et 25 juin, se tenait au Café de France une bourse mondiale du commerce des cheveux. Et cela dura au moins jusqu'en 1914. Tous les posticheurs, marchands de chevelures, représentant de grandes maisons de coiffure de France et même de l'étranger, s'y donnent rendez-vous. Il en vient de Paris, de Bordeaux, de Lyon, de Londres, de Berlin, d'Italie. Et pendant 3 jours que dure le marché, on pèse, on sous-pèse avec animation les nattes blondes et brunes, on examine avec intérêt les chevelures blanches, plus rares celles-ci, et qui, avec les rousses, atteignent les prix les plus élevés. Puis les cours s'établissent de 300 à 350 francs le kilo pour les lots les plus rares, environ 150 francs pour les lots ordinaires. Précisons qu'en 1912, il s'est vendu à Limoges 800 kilos de cheveux au prix moyen de 130 francs le kilo, soit un chiffre d'affaires de 104 000 francs. En euros d'aujourd'hui, un kilo de cheveux de 1912 représenterait environ 425-450 euros. Donc un chiffre d'affaires de 340 000 euros. Que faisait-on ensuite de ces cheveux ? Le magazine Vie et Métiers consacré à la récupération et au recyclage nous donne la liste des opérations de préparation. Le nettoyage d'abord, on roulait les cheveux dans de la cire de bois pour retirer la poussière et la graisse. Puis c'était le démêlage qui s'opérait à l'aide d'une carde assez semblable à celle que l'on utilisait pour la laine. Venait ensuite l'égalissage, qui avait pour but de placer tous les cheveux dans leur sens naturel, la tête en haut, la pointe en bas. Une fois nettoyés, démêlés, les cheveux étaient classés suivant leur taille et triés en fonction de leur couleur. Le blond étant la plus commune et la plus rare, le roux. On utilisait ces cheveux pour les poupées ou pour la fabrication des perruques. L'habitude de porter de faux cheveux chez les nobles et les bourgeois est très ancienne. En 1620, Louis XIII perdait ses cheveux et comme il ne put se résigner à montrer sa calvitie, il se fit confectionner une perruque. Immédiatement, seigneurs et courtisans adoptèrent la perruque. La mode passa après la Révolution, mais bien des femmes de la haute société continuèrent d'apprécier les faux cheveux qui venaient ajouter à leur beauté naturelle. Notons que les cheveux qui étaient trop courts ou dépareillés étaient utilisés pour fabriquer des filtres pour clarifier les sirops.
Quand viendra la vieille charrette faire un tour dans notre pays ? Je dirais au cocher, arrête, il y a quelqu'un pour toi ici. Viens à court, il faut faire vite, emporter le vieux chiffonnier. Il est mort, prends-le tout de suite, dans ses payes entortillées. Sur la longue lande de Rirette, sur la longue lande on rira. Sur la longue lande de Rirette, sur la longue lande on rira.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, intitulée « Hier, en Basse Marche, on récupérait, on recyclait tout ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Louis Peignot, de Jean Leur, de Florence Deguy, d'Alfred Gourceau, de Georges-Emmanuel Clancier, de Maurice Pichon, de Maurice Robert et du bulletin « Vie et Métier ». Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne. 1, 2, 3, tu peux compter sur tes droits. Au musicien Dominique Bouchot, au chanteur Dominique Guimet, Claude Besson et Charles Trenet que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
Sur la longue lande on ira, sur la longue lande rirette, sur la longue lande on ira. On a vu sortir des lumières de son toit pour la chandeleur et valer vers le cimetière pour se joindre à d'autres lueurs. On paraît tant aussi que le diable lui rendait visite chaque nuit, qu'il entrait nu dans une table escorté de mauvais esprits. Sur la lande, lande, rirette.
Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.